Et bonjour, bienvenue sur Fréquence Mistral pour cette émission Ding Ding Dong. Je vous laisse donc présenter Faust et Nico.
Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter une émission sur le thème de l'humour. L'humour, au sens large, est une forme d'esprit railleuse qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité. L'humour est distingué par plusieurs concepts. C'est un langage, mais aussi un moyen d'expression. L'humour peut être employé dans différents buts et peut, par exemple, se révéler pédagogique ou militant. Sa forme, plus que sa définition, est diversement appréciée d'une culture à l'autre, d'une région à une autre, d'un point de vue à un autre, à tel point que ce qui est considéré par certains comme de l'humour peut être considéré par les autres comme une méchante moquerie ou insulte. Dans son sens strict, l'humour est une nuance de registre comique qui vise à attirer l'attention avec détachement sur les aspects plaisants ou insolites de la réalité. Toutefois, dans le langage courant, le sens du terme s'est élargi pour désigner le comique, c'est-à-dire l'ensemble des procédés visant à susciter le rire ou le sourire. L'humour est indissociable du comique, c'est-à-dire de ce qui est propre à faire rire. Le comique est parmi les tonalités littéraires, ce qui permet l'humour. Il en existe principalement six formes: situation, mots, gestes, caractères, mœurs, répétition. En sorte, l'humour utilise nécessairement une forme de comique. Mais toute manifestation comique n'est pas forcément humoriste. Auparavant, il était question de traits d'esprit dans le domaine littéraire. Le trait d'esprit, ce qui définissait plus comme une forme d'ironie acide, est peint sans rire. Constaté chez les auteurs du siècle des Lumières comme Voltaire, Diderot et d'autres. Ainsi, l'humour reste une notion floue. À la croisée d'autres concepts pour qui lui sont proches, tels que le comique, le trait d'esprit, l'ironie ou le burlesque.
Pierre Desproges se demandait: Jésus-Christ est-il plus fort que Superman? Bien non, l'un multiplie des pains dans le désert, l'autre dans la gueule. Maintenant, c'est un sketch de Coluche qui s'appelle Je m'en fous.
La misère, il paraît, c'est un truc terrible. La misère augmente énormément dans le monde. Tout augmente, c'est normal. C'est bizarre, moi je me fous de tout ça, j'arrive pas à m'intéresser. Et il y a pire, j'ai pas honte. J'ai lu dans les journaux, les mecs ils disaient, hein, ceux qui s'intéressent pas, c'est des cons. Hein. Moi je suis con. Déjà vous avez pas l'air, mais alors moi... Il y a la guerre au Vietnam, il y a la guerre au Cambodge, il y a la guerre en Iran, il y a la guerre en Afrique. Ça se rapproche, hein. Et moi, je m'en fous. Je préférais la guerre au Vietnam à la guerre en Iran parce qu'elle était plus loin. Je trouvais ça plus sympathique. Regardez les morts en Afrique à la télé, en direct. Poivre d'abord avec une petite chemisette, une petite crotonne très mignonne. Eh bien, cher docteur, ce petit enfant a donc la famine et vous ne pourrez rien pour lui, il va mourir malgré tout ce que vous lui avez donné comme médicament. Ben oui, vous voyez, l'œil ne réagit plus, vous voyez, je le pince, il ne bouge pas. Ah, ça y est, il est mort. Bon ben, coupez, elle est bonne. Oh non, arrêtez là. Arrêtez là. Il vient de mourir dans le poste maintenant. Non. Il y a des mecs qui meurent de la famine pendant qu'on est à table. Arrêtez, là! Les mecs qui meurent dans la famine, on leur passe pas des images de mecs qui sont en train de bouffer, alors! C'est marrant, moi, je m'en fous complètement. Hein. Je me fous de tout. Tiens, les Cambodgiens, il paraît qu'il y en a plus. Il paraît qu'il y a moins de Cambodgiens vivants que d'éléphants d'Afrique. Et pourtant, les éléphants, il n'y en avait pas lourd. Hein. C'était une race déjà en voie de disparition. Le Cambodgien, c'est pire. Le mec qui en a adopté un couple l'année dernière, il a fait une affaire, on n'en trouve plus. simplement, on ne sait pas s'ils vont se reproduire en captivité, mais... Eh ben c'est marrant, moi j'arrive pas à m'intéresser. Je m'en fous de tout ça. La pollution, c'est pareil, mon vieux. Maintenant, les pétroliers viennent chier en Bretagne. Ils arrivent là, paf, la Bretagne. Oh, les cormorans. De toute façon, je vais pas y aller en Bretagne. Hein? Et puis même, mettons, je vais être franc, je vais être honnête. Mettons que j'irai en vacances en Bretagne. Ça m'intéresserait quand, la pollution? Juin, juillet, août, peut-être septembre. Et puis le reste, on va pas s'amuser à s'occuper, ça va pas, non? Mais mon vieux, les animaux, c'est pareil. On te dit protéger les animaux, protéger les animaux. Bon, en France, on élève des poulets, mais on les mange. En Afrique, ils élèvent des crocodiles, c'est les crocodiles qui les mangent. On pourrait savoir s'il faut protéger les crocodiles ou les Africains en Afrique. Brigitte Bardot qui nous gonfle là, avec ses bébés phoques. J'ai dit, moi, je fais 41, bébé phoque, si t'en trouves deux pareils. Je ferai scier les pattes, je me ferai installer des fermetures éclair. On va pas se geler les arpions pour que ces deux connards qu'on connaît même pas se glissent sur la banquise. Y'a rien pour danser là-bas, ils font banquise tout le temps. La misère du monde n'est pas de dimension humaine. Il y en a trop de misère. Alors on s'occupe de la nôtre et puis quand on en a pas, tout va bien qu'on va pas s'en occuper. Hein? Un mec qui aurait pas de misère, qui s'occuperait de misère, serait vraiment un con. Ça s'appellera utiliser son intelligence à ses dépens. Ouais, franchement. Alors Dieu, il a qu'à s'occuper dans ce cas-là. Moi, je crois en Dieu si on m'emmerde avec la guerre. Je crois en Dieu. C'est Dieu qui s'occupe de tout. Hein, moi, je sais pas. Il est pas là en ce moment, Dieu. Excuse, hein, ça m'aurait fait plaisir. Hein. Il aurait pu vous défendre, il aurait dit deux mots, il vous aurait répondu lui-même, mais il est pas là. Les mecs qui gueulent après la guerre, il y en a partout. Hein. La guerre, ça n'existe pas tout seul, faut bien trouver des mecs pour la faire. Hein. Les gens, ils gueulent après Hitler, mais on l'a surtout connu pendant la guerre, cet homme-là. Puis De Gaulle lui doit tout. Mais oui! Maintenant, ils enferment des intellectuels dans des goulages, avec des haricots rouges, là. Le monde entier gueule pour avoir du boulot. On leur met dans les camps de travail, ils gueulent. Alors? Eh oui, mon vieux. Les Russes, ils auraient pas fait les Jeux Olympiques en Afghanistan. J'aurais même pas su où c'était, moi, l'Afghanistan. L'Afghanistan, le Turkistan, le Turc qui se détend. Est-ce que je sais où c'est, moi? Moi, je suis con, hein, mais putain, j'aime ça. Hein. Oh là là là. Je sais que c'est mal de pas s'occuper de la misère du monde, je le sens, je me dis, t'es bête, t'es vraiment con, bon, t'es con, allez. Alors je me dis, la prochaine fois qu'il y a une nouvelle guerre, c'est-à-dire la prochaine fois, je m'occupe de tout. Je saurai où c'est, qui a des frontières avec, qui a commencé, qui c'est qui a envahi, si John Baez y allait chanter. Je saurais tout. Et puis je m'intéresse, 3 semaines, tout ça. Je m'intéressais à la guerre au Cambodge à l'autre jour, puis je me suis aperçu que c'était les Vietnamiens qui la faisaient. Pendant 30 ans, moi j'avais été pour les Vietnamiens, qu'on allait faire chier. Dès qu'ils ont été libérés, ils ont envahi le Cambodge. J'avais pas l'air con, tiens. Ah ben j'avais pas l'air con, moi, tiens. Ah ben t'es pour les Vietnamiens, ils ont envahi le Cambodge. Alors la prochaine fois, je me dis, je m'occuperai de tout. Je m'occupe 3 semaines, je laisse tomber. Oh, je suis con. Heureusement que tout le monde fait pas comme moi. Ça serait un de ces bordels, le monde. D'ailleurs, c'est un beau bordel. Hein. Je me demande si tout le monde fait pas comme moi.
Alors voilà, les différentes formes de l'humour. Les apparitions les plus connues de l'humour se font dans les histoires amusantes, qualifiées de drôles, désignées fréquemment sous le vocable de blague. Il se manifeste cependant de manière très diverse, ce n'est pas toujours explicite. C'est le cas de l'ironie, de la pointe, de la remarque pince sans rire. Des gestes même peuvent être comiques. Si l'humour est toujours volontaire, un individu peut être comique sans le vouloir. L'humour apparaît aussi sous forme de bande dessinée pour adultes ou jeunes publics. L'humour a pour but de souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité. Aussi, l'humour peut revêtir de nombreuses formes différentes et il est très difficile de dresser une liste exhaustive des formes d'humour. Toutefois, nous sommes parvenus à élaborer le listing suivant. Le registre comique serait un ensemble d'éléments propres à distraire et amuser un public. Il existe différentes formes de comique. Par exemple, on peut citer le comique de situation, de langage, de geste, de répétition, de caractère. Il existe également plusieurs procédés de comique, ce sont les effets comiques. Le registre satirique, c'est une critique moqueuse plus ou moins virulente d'une personne ou d'un événement. La parodie, c'est une imitation moqueuse qui peut prendre une forme burlesque ou héroïque-comique. Le burlesque, désigne l'explication des choses les plus sérieuses par des expressions tout à fait plaisantes et ridicules. Il se dit aujourd'hui couramment pour désigner un comique exagéré, extravagant, qui repose généralement sur un décalage entre la tonalité et le sujet traité dans un texte. L'ironie et le sarcasme, c'est une figure de style où l'on dit le contraire de ce qu'on veut faire entendre. Par exemple, tu fais encore un petit peu plus de bazar, dit par un parent qui souhaite que son enfant range sa chambre. La caricature, c'est un dessin ou un texte qui exagère certains traits dans des genres comiques ou satiriques. L'exagération, c'est amplifier volontairement des événements, des faits, etc. dans le but de faire rire. Il y a l'humour noir. L'humour noir, c'est une forme d'humour qui s'appuie sur des éléments tristes ou désagréables et les tourne en dérision et rire jaune, un rire forcé et amer. De fait, l'humour n'est pas nécessairement lié à la joie. L'humour pince sans rire. L'humour pince sans rire est une forme particulière d'humour, caractérisée notamment par l'air sérieux de la personne qui en fait preuve, que l'on peut rapprocher de l'humour noir. L'humour d'observation. L'humour d'observation est une forme d'humour se basant sur la caricature de situations du quotidien. C'est la forme d'humour la plus répandue dans le domaine du one-man show, particulièrement dans le stand-up. Humour en photographie. Les photographes français René Maltette et Robert Donneux ont beaucoup donné dans le genre. L'étude de l'humour et ses effets entre dans le champ disciplinaire de la psychologie, de la philosophie, de la linguistique, de la sociologie, de l'histoire, de la littérature et de la médecine. Une musique d'Ivan Rebrov, c'est la danse des animaux dans la crèche de Bethléem. Thank you.
Étymologie. Le mot humour provient de l'anglais humour, lui-même emprunté du français humeur. L'humeur du latin humor, liquide, désignait initialement les fluides corporels, sang, bile, etc. Pensé comme influençant le comportement. Vers 1760, les Anglais utilisent le terme humour dans le sens tempérament, enjoué, gaieté, aptitude, à voir ou à faire voir le comique des choses. Pour se vanter de posséder un certain état d'esprit, actuellement nommé humour anglais. À la même époque, le sens du mot français humeur suit une évolution semblable. Origine et rôle. Les origines et les fonctions du rire engendré par l'humour sont difficiles à cerner, mais il est reconnu depuis l'Antiquité comme ayant une fonction cathartique, c'est-à-dire libératrice et qui permet l'extériorisation. Définition du mot cathartique. En psychanalyse, il s'agit d'une méthode psychothérapeutique reposant sur la recherche de la catharsis chez le patient, c'est-à-dire une décharge émotionnelle libératrice liée à l'extériorisation de souvenirs d'événements traumatisants ou refoulés. Méthode pratiquée par Freud avant la mise au point de la méthode psychanalytique promenant dite. Maintenant, je vous propose d'écouter Pierre Perret, le Zizi.
Afin de nous ôter nos complexes, on nous donne des cours sur le sexe. On apprend la vie secrète des angoissés de la bébête ou ceux qui trouvent des gourdines montrer leur bigoudis. Une institutrice très sympathique nous elle explique toute la mécanique. Elle dit nous allons planter le décor de l'appareil masculin d'abord. Elle s'approche du tableau noir, on va peut-être enfin savoir quel est ce monstre sacré qui a donc tant de pouvoir. Et sans hésiter, elle nous dessine le petit chose et les deux orphelines. À toutes les couleurs, des boulangers jusqu'au ramoneur. J'en ai vu des impulsifs qui grimpaient dans les calcifs. J'en ai vu de moins voraces tomber dans les godasses. Suis d'un mécanicien en détresse qui a jamais pu réunir ses pièces. Y a le zizi tout propre du blanchisseur, celui qui a mis donne la main de ma sœur. J'ai vu le zizi d'un curé avec son petit chapeau violet qui juste en pleine ascension fait la génuflexion. Un lever de zizi au crépuscule et celui du pape. Tout pour son le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le roux, le gros tofu, le grand ridé, le bon pelé, tout, je vous dirai tout sur le zizi. Le zizi musclé chez le routier se reconnaît à son gros col roulé. J'ai vu le zizi affolant d'un trapéziste ambulant qui apprenait la barre fixe à ses petits enfants. L'alpiniste et son beau pic à glace, magnifique au-dessus des grandes chorasses. J'ai vu le grand zizi d'un petit bedeau qui sonne l'angélus les mains dans le dos. celui d'un marin breton qui avait perdu ses pompons, et celui d'un juif cossu qui mesurait le tissu, celui de l'infirmier d'ambulance qui clignotait dans les cas d'urgence. Tout, 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 vous le saurez, le vrai, le faux, laid, le beau, le dur, le beau, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le bon pelé, tout, 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 je vous dirai tout si vous hésitez. J'ai vu le tissu chez des aristos, que toujours au bord de l'embargo. J'ai roulé de la pâtisserie avec celui de mon mari, avec celui d'un chinois, j'ai même cassé des noix. Avec un zizi aux mœurs incertaines, j'ai même fait les rites veaux à l'ancienne. Tout, 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 vous saurez, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le beau, le gros touffu, le grand ride et le bon pelé, tout, 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 je vous dirai tout sur vous.
Alors, thérapie, il est empiriquement reconnu comme de l'humour et son effet direct. Le rire a des effets positifs sur la santé. La science contemporaine a découvert que l'humour et le rire participaient, entre autres, à la décontraction des muscles, à la réduction des hormones de stress, à l'amélioration du système immunitaire, à la réduction de la douleur. La thérapie par le rire existe, appelée également gylothérapie, du grec gylos, qui signifie rire. Elle étudie les effets du rire sur le corps, la psychologie et la physiologie. Ses promoteurs la qualifient parfois de rigolothérapie ou rirothérapie. Il la présente souvent comme une médecine complémentaire, ayant des fondements thérapeutiques. L'hypnose de base est que le rire est naturellement nécessaire à la bonne santé. Sur le plan somatique, il amènerait un usage ample des systèmes respiratoires et vocaux. Ce dernier agit sur le système vagosympathique, proximité des cordes vocales et les nerfs de ce système. La pratique de la gélothérapie a été observée dans certaines tribus amérindiennes, chez les Tibétains également. En France, il existe des associations de le rire médecin. Cette association a pour vocation de former et employer des clowns hospitaliers qui jouent des spectacles personnalisés dans les hôpitaux à destination des enfants malades, de leurs familles et des soignants. L'intervention de clowns professionnels peut permettre aux enfants hospitalisés et à leurs familles de bien vivre ces moments difficiles. Ils apportent de la joie, de la légèreté et de la bonne humeur. Pédagogie. L'humour peut se révéler être un outil intéressant pour l'enseignement. Des études ont montré que l'utilisation de l'humour accompagnée d'analogies et de métaphores permet de mieux mémoriser l'information.
Le rire dans le temps. Le rire au XVIe siècle. Au XVIe siècle, la Renaissance apporte un rire qualifié d'épicurien, c'est-à-dire qui procure joie et plaisir des sens. Le rire est représenté en grande partie par la Commedia dell'arte d'origine italienne. Elle s'est répandue en Europe au long du siècle. Elle s'appuie sur la gestuelle, c'est-à-dire sur des mimiques, grimaces, coups de bâton, mais aussi sur le jeu masqué et l'improvisation. Les personnages sont une fois de plus des stéréotypes de la farce. On retrouve Harlequin, Colombine, Polichinelle, Scaramouche, Pantalon, Il représente la société et s'en moque en faisant ressortir son caractère exagéré et malhonnête. Ces personnages font l'objet de nombreux écrits et œuvres d'art. Ensuite, le rire au XVIIe siècle, c'est au tour de Molière de mettre en scène le rire dans ses nombreuses comédies comme L'avare ou Le malade imaginaire. Molière, au travers de ses personnages, critique la société indirectement, provoquant le rire à l'unanimité, quels que soient les âges ou la religion. Ces pièces sont à la fois un outil de divertissement et une manière de dénoncer les comportements humains tels que l'avarice, l'orgueil, l'hypocrisie et autres comportements humains déficients. Elles sont accessibles à toutes sortes de publics. Les œuvres de Molière prouvent à quel point le rire peut devenir un outil de dénonciation. Une musique de Kate Bush, c'est Aerial.
I'm
Évoquons à présent le rire dans l'époque contemporaine. Le rire au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle ou siècle des Lumières. Le rire entre alors dans les nombreux débats des philosophes qui, au lieu de s'interroger sur sa nature, cherchent à le rendre vertueux. Pour le moraliser, ils le retournent donc et se moquent de quiconque ne fait pas preuve de vertu. Cependant, les larmes restent toujours, signe de cette vertu et la connotation du rire est tantôt celle du beau et du bon, tantôt celle de la laideur associée aux déformations du visage. L'âme sensible, selon Rousseau, ne rit pas, mais sourit ou pleure. Le philosophe allemand Kant voit le rire comme une harmonie entre l'esprit et le corps. Voltaire le définit comme une véritable joie. Après la révolution de 1789 et la proclamation de la liberté, apparaît un nouveau genre, la caricature. Caricatère signifie exagéré. Et c'est ce qui provoque le rire. Elle se présente sous forme d'un petit dessin griffonné le plus souvent et permet de se moquer et de faire une critique de la société, surtout en ce qui concerne l'aristocratie et le clergé. Le roi Louis XVI n'est pas épargné. Il devient roi de carnaval, goinfre, impuissant et incapable de gérer la France correctement. Les caricatures contre le clergé représentent, quant à elles, des moines et abbés dans des postures des plus indécentes, avec une exagération des traits physiques. La caricature traite des sujets populaires afin d'être comprise par un large public. Ouvriers et artisans, bien souvent illettrés, ou même riches paysans. Elle forme une sorte de propagande pour les révolutionnaires et le rire qu'elle provoque a un but de désacralisation. Parallèlement, à cette époque, commencent les recherches des médecins sur le rire qui aboutissent. Des vertus thérapeutiques sont découvertes en ce qui concerne l'équilibre vital. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le rire devient réellement public. Il envahit tous les moyens de communication et d'information, bénéficiant en effet de l'essor des médias et passe au-dessus de toutes les frontières sociales. En littérature naît le romantisme. Dans des écrits invoquant plutôt la tristesse, la mélancolie ou la mort, le rire apparaît comme triste ou ironique. Par la suite, il vient consoler de l'injustice, de la guerre et plus tard, il contre la peur de la fin de vie en l'acceptant et en admettant d'en rire. La question « peut-on rire de tout ?» se pose de plus en plus, mais sa réponse demeure vague. Autant de questions que se sont posées bon nombre d'hommes avant nous, questions qui pourtant demeurent. Si nous n'avons pas la prétention de répondre à ces questionnements complexes, là où des hommes brillants ont eu du mal, il est possible toutefois d'essayer d'y voir un peu plus clair. On peut noter que déjà dans l'Antiquité à Rome, on rit des despotes. Des défilés s'organisaient durant lesquels on ne se retient pas de faire des satires politiques.
De nos jours, au XXIe siècle, il faut savoir que le rire est synonyme de liberté. Et comme la loi prévoit que la liberté est exerçable sans contrainte ni condition dans la limite du respect d'autrui, le rire n'aurait donc pas à craindre d'être censuré, voire éliminé de la société. Ainsi, le rire est essentiel à tout homme autant que la liberté. Sa condamnation est symptomatique d'un régime autoritaire ou de dogmatisme qui doivent leur survie aux pressions qu'ils exercent sur les individus, à la menace qu'ils laissent planer sur tous ceux qui s'y opposent. Le rire peut être insupportable par tous ceux qui sont incapables de prendre du recul par rapport à leur existence, leur apparence, ou de relativiser la portée de leurs engagements. Les totalitarismes au XXe siècle interdisaient à leur population de rire, car cela était considéré comme une moquerie du dictateur au pouvoir. Et c'est encore le cas dans certaines régions du monde, où il ne faut pas rire de n'importe quoi, ni chanter ou faire de la musique, etc. Charlie Chaplin lui aussi s'opposera à cette volonté de dominer jusqu'au rire de la population. C'est dans son œuvre audacieuse, Le Dictateur, qu'il se positionnera comme opposant au nazisme hitlérien. En réalité, si l'humour était interdit, c'est parce qu'il est capable de porter en lui les germes de la révolte. Le rire nous maintient éveillés et évite de se laisser guider par le sérieux que réclament ceux qui l'interdisent. Il est libérateur et nous évite de tomber dans la vénération. Ainsi, on doit pouvoir rire de tout, la loi n'ayant pas à intervenir. À chacun cependant de faire de ce droit l'usage qu'il convient et de ne surtout pas oublier que le rire représente un champ de liberté de pensée, mais aussi, ne l'oublions pas, l'expression d'une joie partagée. C'est rire avec les autres et pas rire des autres. Béni-Île.